Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et entrons tout de suite dans le vif du sujet de cette thématique retraite en accueillant Thibaut Cosnet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur de l'offre épargne et patrimoniale du conservateur. Alors effectivement, le mot retraite, je pense qu'il est dans toutes les têtes, que ce soit pour abroger, pas abroger, reprendre, étendre, réduire, enfin bref. Et chacun peut se poser la question de se dire finalement, est-ce que j'aurai le droit à une retraite? À quoi elle ressemblera? Comment est-ce qu'il faut que je m'en occupe? C'est vrai qu'il y a énormément de défis. Ne serait-ce que démographiquement, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y aura assez d'actifs, suffisamment pas de retraités. Enfin, comment est-ce qu'on doit appréhender un petit peu tous les défis, toutes les questions qui se posent en termes de retraite?
Tout d'abord, on peut déjà rappeler qu'aujourd'hui, une pension moyenne de retraite, c'est bon an, mal an, en moyenne, à peu près 2000 euros par mois. Mais effectivement, les enjeux démographiques, parmi toutes les incertitudes que vous avez citées, qu'elles soient politiques, économiques ou financières, la démographie, c'est relativement solide et on peut en tirer un certain nombre d'évolutions liées à l'allongement de la durée de la vie en France, puisque rappelons que bon an, mal an, l'espérance de vie augmente de 3 mois par an depuis la Seconde Guerre mondiale, et qu'en plus, le taux de natalité en France a tendance à se réduire. Donc les évolutions structurelles du système de retraite, elles sont là et c'est bien de les poser. Vous parliez du ratio cotisant-retraité. Il n'a de cesse de se dégrader. On était à peu près à 2 cotisants pour un retraité il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 1,7. Et selon les chiffres du corps, on devrait avoir un taux cotisant-retraité qui devrait converger vers 1,3-1,2% à horizon 2050-2070. Donc il y a une vraie dégradation. Parallèlement, l'allongement de la durée de la vie fait qu'on passe de plus en plus de temps à la retraite. Nous étions à une durée de vie passée à la retraite aux alentours de 21-22 ans il y a quelques années. On devrait converger à 27 ans dans 2050-2070.
Plus de temps à la retraite et moins de cotisants.
Donc ce qui veut dire qu'effectivement, le taux de remplacement, a priori, sauf aménagement très majeur du système de retraite, devrait aller en se dégradant.
Alors justement, ce taux de remplacement, c'est important d'avoir ce mot en tête. Vous nous avez rappelé ce 2000 euros, qui est l'étiage moyen, on va dire. Ça veut dire quand même que les particuliers, ils doivent avoir en tête, appréhender le fait que le niveau de vie nécessairement va baisser à la retraite.
Oui, là aussi le rapport du corps du mois de juin est riche d'enseignements. On a un taux de remplacement pour un cadre à aujourd'hui à peu près de 53%. C'est-à-dire en passant de la belle vie active à l'heureuse vie de retraité, on a 100% de son temps libre, mais 53% de ses revenus. Ça c'est pour la génération qui part à la retraite actuellement.
Il faut acheter les articles de pêche avant.
Exactement, il faut être prévoyant. Pour la génération 1996, donc celles et ceux qui sont nés en 1996, le taux de remplacement devrait converger à 43%. C'est-à-dire qu'on devrait perdre 10% de taux de remplacement pour la génération qui est susceptible de prendre sa retraite donc, dans une trentaine d'années. Donc on voit que la tendance est effectivement lourde, structurelle et on a peu de chances d'avoir une inversion rapide de cette tendance.
Ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire que si on veut maintenir au maximum son train de vie, il va falloir s'en occuper soi-même.
Oui, a priori, il faut avoir, certes, un aménagement du système de retraite tel qu'elle a été faite par le passé, mais on sent que ce n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais il faut également se créer soi-même sa retraite par capitalisation avec de l'épargne qu'on affecte à destination de sa retraite pour essayer effectivement d'amoindrir cette perte de train de vie entre la vie active et la vie de retraité.
Et dans le champ de nos offres patrimoniales, aujourd'hui, on a un produit qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a peu de temps, entre guillemets 5 ans, c'est ce fameux PER, plan d'épargne retraite. Il a des avantages, il a des inconvénients, plus de l'un, plus de l'autre. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est que ce PER et ce qu'il faut en penser?
Alors, effectivement, le PER a été lancé dans le cadre de la loi Pacte en 2019, donc il y a un peu plus de 5 ans. C'est un vrai succès, il y a 110 milliards de cotisations versées dans des PER, dont à peu près 2/3 via des transferts, pour 10 millions d'assurés, donc il y a quand même une vraie appropriation de cet outil. Les principaux avantages du PER, c'est que c'est un produit unique, contrairement dispositif d'épargne retraite qui préexistait, où il y avait une galaxie, une myriade de différents produits. Le PER peut être unique et on peut y transférer l'intégralité des dispositifs dont on disposait précédemment.
Il y a un plan pour gouverner tous les autres, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux qui connaissent la formule.
C'est ça, avec différents compartiments. Donc, transférabilité, un dispositif unique. On a le choix, de pouvoir faire sur l'épargne versée à titre individuel et de manière volontaire. On a le choix de sortir soit en rente, soit en capital, soit les deux, lors de la retraite, ce qui est une vraie nouveauté, là où précédemment on avait plutôt des dispositifs qui fléchaient la rente. Et en plus, il y a un dispositif incitatif d'un point de vue fiscal, où les primes versées dans le PER permettent de réduire les revenus professionnels imposables dans un plafond de l'ordre de 35 000 euros cette année. Et on peut en plus utiliser les années antérieurement non affectées à l'épargne retraite, les trois années antérieures pour les salariés, et éventuellement les plafonds non consommés par le conjoint. Donc, alors, de multiples avantages.
Ouais. Vous avez rappelé notamment les questions de simplification, etc. Qu'on avait un peu écarté, enfin pas écarté, mais diminué le côté impératif de la rente, etc. Et c'est vrai qu'on sait que les épargnants français, ils aiment pas beaucoup la rente et que ça n'avait jamais bien fonctionné dans l'Hexagone. Certains pointent un manque de liquidité, ils ont un peu la trouille, en fait, disons les choses comme elles sont, de se retrouver bloqués, de ne pas avoir le choix.
Il faut effectivement assumer que le PER, c'est un produit tunnel. C'est un produit tunnel qui est fléché vers la retraite. Il y a quelques cas où on peut sortir par anticipation, mais c'est des cas d'accident de la vie ou d'acquisition de résidence principale, mais qui sont très limités. Donc, c'est effectivement, il faut avoir conscience de cet inconvénient-là. Il faut aussi avoir conscience du fait que l'incitation, la carotte fiscale, entrée via la réduction des revenus imposables, donc une économie d'impôt, elle sera récupérée en partie à la sortie puisque c'est un report d'imposition. Les primes versées à l'entrée seront réinjectées dans les revenus imposables, donc seront fiscalisées à la sortie. Donc il faut bien gérer le décalage et il faut aussi avoir conscience du fait que le PER, même un PER assurantiel, présente un petit différent par rapport à l'assurance vie en termes successoral, dans la mesure où pour les décès après 70 ans, l'épargne initialement versée dans le PER vient intégralement dans la masse successorale avec un abattement unique de 30 500 euros, plus-value incluse. Donc là, il y a quand même un décalage.
Je comprends dans votre propos qu'il y a d'autres produits que ce PER et on va y venir, mais juste un instant parce que vous nous avez rappelé tous les avantages fiscaux, entre guillemets, qui s'accrochent, qui se greffent, etc., qui existent liés à ce PER. On est, je ne vais pas vous le cacher, en pleine disette budgétaire, on ne sait pas très bien où on va, l'État cherche de l'argent à peu près partout. Est-ce que vous pensez que c'est, finalement, c'est ce coût fiscal, parce que tout avantage consenti aux contribuables, c'est un manque de recettes pour Bercy. Est-ce que tout ça peut perdurer ou est-ce que à un moment, Bercy va dire tiens, on va essayer de tondre ce mouton-là?
Seul l'avenir nous le dira. Oui. En tout, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu deux rapports qui ont été récemment publiés, qui sont bonnes à avoir en tête quand on parle d'épargne retraite et de PER. Le premier rapport, c'est le rapport de la mission d'information sur la fiscalité de l'épargne retraite, portée par Charles de Courson, qui a identifié ce qu'on appelle une ligne de fuite dans le PER, à savoir qu'effectivement, quand on transmet de l'épargne via le PER, c'est-à-dire au décès, eh bien, il n'y a pas de report d'imposition à l'impôt sur le revenu. Et ce rapport proposait de corriger ce qui est identifié comme une anomalie, donc à voir ce que l'avenir nous réservera. Deuxième rapport, là, il est plus récent, c'est de la Cour des comptes au mois de novembre, qui considère qu'effectivement, ce dispositif PER est coûteux pour les finances publiques et propose de revoir un certain nombre de sujets, dont en particulier le report des trois années antérieures, possiblement déductible.
Le rattrapage si on n'a pas pensé à le faire au moment où on démarre.
Hein. Exactement. Donc c'est pas, on voit que c'est pas stabilisé. Effectivement, les débats fusent dans tous les sens. Donc soyons attentifs par rapport à ce sujet-là et justement gérons un équilibre probablement sain dans les stratégies patrimoniales de ne pas tout miser sur le PER.
Alors justement, si on ne mise pas tout sur le PER, ça veut dire qu'il y a d'autres produits qui peuvent également adresser une stratégie d'épargne retraite, lesquels on met en avant ?
L'assurance-vie, en premier temps, enfin, il y en a de multiples, hein, ça peut être l'assurance-vie, le PEA, la tontine, l'immobilier, il peut y avoir plein de dispositifs qui permettent d'affecter une partie de ses ressources pendant la vie active à des revenus complémentaires à la retraite. L'assurance-vie a quand même des avantages importants, dans la mesure où certes, il n'y a pas de dispositif incitatif fiscalement à l'entrée, mais en revanche, il y a une maîtrise de la fiscalité à la sortie, où pour les contrats de plus de 8 ans, on a des abattements annuels de 4 600 euros pour un célibataire ou 9 200 euros pour un couple soumis à position commune sur les intérêts. Donc, il y a quand même une vraie maîtrise des revenus qu'on peut aller générer. L'assurance vie est liquide. Quoi qu'on en dise, malgré les idées préconçues, l'assurance vie est liquide avant 8 ans et on peut en tirer.
On rappelle, hein, ouais. L'assurance vie n'est pas bloquée au moment où on met de l'argent dedans pendant 8 ans. Hein. Ça n'est pas.
C'est bien de le rappeler, ça fait partie des idées
fantasmes
reçues qui sont un peu dures à faire oublier. Et en plus, l'assurance vie, pour les sommes versées avant 70 ans, bénéficie d'une fiscalité successorale très avantageuse dans la mesure où, je le rappelle, pour les sommes affectées à l'assurance vie versées avant 70 ans, on peut transmettre 152 500 euros aux bénéficiaires qu'on a librement désignés par la clause bénéficiaire aux différents bénéficiaires qu'on a désignés. Et après, les 700 000 euros suivants sont taxés à 20% et au-delà, c'est 31,25. Donc il y a quand même une vertu transmission et successorale qui est très importante de rappeler également dans l'assurance vie, puisque c'est l'équilibre d'une épargne retraite, de pouvoir avoir effectivement des revenus, mais également de prévoir ce qui se passe après, c'est-à-dire la prévoyance, protection du conjoint et également la transmission.
Allez, un petit teasing. En fin d'émission, on parlera justement de cette clause bénéficiaire et on vous expliquera vraiment toutes les ficelles pour l'utiliser au mieux parce que c'est vraiment un aspect essentiel de cette assurance vie. Dans votre panorama de produits, vous avez prononcé un mot que tout le monde ne connaît pas forcément, tontine, et c'est un peu votre produit chouchou, votre produit fétiche, fait finalement la spécificité du conservateur.
C'est effectivement par là que le conservateur s'est créé il y a 180 ans, en 1844. Néanmoins, ça fait partie d'une galaxie complète de produits. Au conservateur, on a évidemment le maximum de solutions à proposer à nos clients. Mais effectivement, on a cette spécificité qui s'appelle tontine.
Qu'est-ce que c'est que cette tontine du conservateur ?
Alors la tontine, c'est ce qu'on appelle une association collective d'épargne viagère, c'est la dénomination juridique. C'est une association d'épargnants qui collecte pendant une certaine durée de l'épargne librement investie par des épargnants, vous et moi. Au terme de cette association, le terme étant compris entre 10 et 25 ans à la création d'une tontine, on vient liquider la tontine entre les bénéficiaires des assurés survivants et ainsi pouvoir générer... De la rentabilité via cette opération tontinière. Donc la tontine, c'est une opération de moyen et de long terme. Au conservateur, on peut y adhérer pour une durée minimale de 8 ans jusqu'à 25 ans. Et cette tontine a de multiples utilités. L'épargne retraite, par exemple, en affectant une partie de son patrimoine à des différentes échéances, compris entre 8 et 25 ans, on peut se créer via ce qu'on appelle une tontine en cascade des revenus
Chaque
complémentaires.
Chaque année, on a une tontine qui arrive au bout, c'est
Exactement,
ça ?
Exactement. Ainsi permettre d'avoir une planification patrimoniale. On peut également avoir, grâce à la tontine, un outil de donation de son vivant, c'est-à-dire que, par exemple, des parents ou des grands-parents qui veulent donner, dans le cadre des abattements, de l'argent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants peuvent utiliser la tontine comme étant un réceptacle de l'argent donné qui sera disponible dans 8 ans, 10 ans, 15 ans. Par exemple, pour les petits-enfants, c'est souvent très apprécié comme mécanique. Et donc, cette tontine, dans la spécificité de l'épargne retraite, permet justement de pouvoir utiliser ces différentes échéances en cascade pour se faire des revenus complémentaires, tout en sanctuarisant, j'aime bien ce terme-là, les avantages du PER pour éviter de sortir trop fortement et ainsi d'avoir un retour fiscal trop élevé, et en sanctuarisant également l'assurance vie dans une optique de transmission. Donc c'est l'équilibre de ces trois supports, par exemple, de ces trois opérations, qui permettent d'avoir une structuration patrimoniale solide.
Alors justement, pour terminer, essayons de donner quelques conseils à nos auditeurs. Quelle est la meilleure pratique selon vous, justement, c'est de panacher l'ensemble des produits pour essayer d'obtenir sa retraite entre guillemets sur mesure. Et puis, comme on a parlé finalement de rente ou de capital, etc. Qu'est-ce qu'il faut privilégier l'un, oublier l'autre, ou au contraire là aussi peut-être panacher. Comment est-ce qu'on construit finalement la meilleure stratégie retraite quand on est un épargnant aujourd'hui ?
A priori, il faut se faire accompagner parce que c'est quand même une stratégie assez complexe dans la mesure où il faut avoir une vision 360 degrés de son patrimoine. Il ne faut pas se focaliser juste sur la fiscalité ou sur la rentabilité économique. C'est vraiment ce qu'on appelle chez nous les quatre axes. Avoir une lecture économique, oui, sur la performance, la liquidité ou pas de ces placements. Une lecture fiscale, est-ce que j'ai un avantage à l'entrée ? Comment je maîtrise mes revenus, la fiscalité de mes revenus à la sortie ? Un axe civil sur la partie transmission, à qui c'est transmis ? transmis, comment c'est transmis, dans quelle mesure, et la partie prévoyance qui permet, bah, en cas d'accident de la vie, est-ce que mon conjoint et mes enfants sont protégés grâce à mon
épargne. Oublier la prévoyance.
Hein. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est un travail compliqué, et c'est pour ça qu'il faut être capable d'adapter chaque structuration en fonction des objectifs personnels de chaque épargnant pour avoir du sur-mesure. Et par rapport à votre question entre rente et capital, là, c'est en fonction de l'appétence de chacun.
C'est ça.
Le capital permet d'avoir...
Il faut le sentir, quoi. Il faut être à l'aise avec sa retraite.
Permet d'avoir une maîtrise de quand je vais récupérer des flux et de pouvoir, si je ne les consomme pas en totalité, pouvoir éventuellement les affecter à une autre opération patrimoniale. Ou la rente, d'ailleurs, permet peut-être... pour celles et ceux qui souhaitent affecter une partie de leur épargne dans un dispositif de rente, permet de couvrir le risque de dépendance, puisque là, on sait que c'est une rente viagère, donc qui s'éteindra au décès. Et donc, c'est aussi une dimension à prendre en considération, mais c'est vraiment du sur-mesure, quoi qu'il en soit.
Merci beaucoup, Thibault.
Merci, Cédric.
Thibault Cosnet, donc, pour Le Conservateur et ses stratégies d'épargne retraite à l'heure où ce mot retraite vient et revient dans le débat politique. Merci, Thibault, et à très bientôt. Nous, on poursuit. Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine. Cédric Decoeur.